Les événements, Isabelle Stengers, les relations, c'est la règle de trois de Vinciane Després. Plusieurs événements marquent les premières années de sa vie. Née en 1959 à Anderlecht, Vinciane Després grandit à Liège. Un jour, sa grand-mère va récupérer une machine à écrire dans son grenier et lui offre. Vinciane Després a 6 ans et elle passe ses journées à écrire des poèmes et des textes.
J'étais pratiquement déjà d'entrée de jeu dans un imaginaire de jeu de petite fille. On disait que j'étais une écrivaine.
Deuxième événement, à l'âge de 12 ans, elle rédige un roman largement inspiré de la série Le Club des 5 d'Enid Blyton et son professeur de français lance une analyse de son livre en classe, une immense fierté. Après des études de philosophie, c'était très poussiéreux à l'époque, dit-elle, Vinciane Després entame un cursus de psychologie. Là, elle assiste à son premier cours d'éthologie et décide de se consacrer à cette science des mœurs et du comportement individuel et social des animaux. Sa rencontre avec Isabelle Stengers se révèle déterminante. En 1980, cette grande philosophe des sciences avait publié La Nouvelle Alliance.
Ce que j'essaye de montrer dans ce livre, c'est que les questions scientifiques se sont transformées de l'intérieur sous l'action de questions culturelles, de questions philosophiques.
En 1995, Vinciane Després revient d'Israël où, entre Beersheva et Eilat, elle avait étudié le travail de l'ornithologue Amos Zahavi qui observait les cratéropes écaillés, autrement appelés passereaux d'Arabie. Cette année-là, elle donne un premier rendez-vous à Isabelle Stengers au café Le Pickwick à Bruxelles. Et elle se met à lui raconter le livre qu'elle n'a pas encore écrit sur cette expérience dans le désert du Negev. 3 semaines plus tard, le premier livre de Vinciane Després, Naissance d'une théorie éthologique, la danse du cratère Ropécaillé, est rédigé. Depuis, les deux femmes se considèrent comme sœurs. S'il y avait une chanson pour Isabelle Stengers, ce serait les frangines d'Anne Sylvestre, dit Vinciane Després.
Si on se retrouvait, frangine.
Ces livres mettent en exergue les relations qui existent au sein des espèces ou entre ces espèces dans toute leur complexité. Quand le loup habitera avec l'agneau, être bête, penser comme un rat, habiter en oiseau. Aujourd'hui, dans Autobiographie d'un poulpe, elle cite Michel Serres. Dans quel langage parlent les choses du monde pour que nous puissions nous entendre avec elle par contrat?
Elle est avec nous, Vinciane Després, et la danse du cratérope écaillé, ben voilà, qui était épuisée pendant des années, ressort aux éditions Les Empêcheurs de penser en rond, et évidemment Autobiographie d'un poulpe, votre dernier essai, Vinciane Després, chez Actes Sud. D'une certaine façon, à travers tout votre travail, tous ces essais, vous essayez de nous montrer, de nous inciter à comprendre que, d'une part, nous ne sommes pas seuls, nous les humains, que d'autre part, comme écrivait le naturaliste américain Aldo Leopold, nous sommes observés par tous ces êtres vivants non humains, et qu'il faut décentrer notre regard.
Oui, tout à fait.
Réenvisager toute cette parenté qui nous lie à ce vivant.
Alors, réenvisager cette parenté, et peut-être aussi, alors ça c'était peut-être un des motifs de cette fiction, c'était de sortir d'un schéma dans lequel j'étais moi-même un tout petit peu coincée.
Lequel?
C'était d'une certaine manière de ne m'intéresser qu'aux animaux qui avaient des mêmes formes d'intelligence que nous. C'est-à-dire les corvidés, les dauphins, les primates, chimpanzés. Bref, les chimpanzés. Et pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à eux? Parce qu'on se dit, mais en fait, oui, on n'est pas seul. Comme ils nous ressemblent, ils sont presque aussi...
anthropomorphise, du coup, ça
alors, peut anthropomorphiser. Peut-être qu'on anthropomorphise, mais c'était surtout un très bon moyen pour lutter contre ce qu'on appelle l'exceptionnalisme humain. Donc ça, très bien. Et donc, il fallait le faire. Mais à un moment donné, je me suis dit, oui, mais qu'est-ce que ça voudrait dire une intelligence vibratoire, une intelligence qui ressent les ondes? Par exemple, comme les araignées ou les chauves-souris. Qu'est-ce que ça voudrait dire une intelligence dans 8 bras différents qui se distribue? Qu'est-ce que ça voudrait dire ce type d'intelligence? Et si on devait se mesurer aux animaux sur ce type d'intelligence-là, on serait probablement très déficitaire, très handicapé.
Ce qui, d'une certaine façon, peut se résumer en une formule. Vous voulez rendre leur honneur à des espèces qui sont sous-estimées, méprisées, les oursins, les tiques, les fourmis. Vous dites, mais les fourmis, il y a une poésie pamphlétaire, vous l'écrivez chez les fourmis, et d'autres espèces, c'est ça. Que l'on regarde toutes ces espèces avec le même émerveillement et la même envie de les protéger et de nous corréler avec.
Tout à fait. Alors le même émerveillement et aussi un souci pour alors un souci de la description, un souci des détails, un souci de ce qui les rend très différents de nous et qui nous aide parfois, parce que je pense qu'on s'est pas trop intéressé à ce qui était très différent parce qu'on n'était pas très bien équipé pour le comprendre. Je vais dire, les chimpanzés apprennent notre langue, mais bonjour, vous parlez de chimpanzé. Hein, c'est la même chose pour la plupart des animaux. Il y a quantité d'animaux qui comprennent très très bien ce que nous faisons. Les corvidés, par exemple, comprennent tout, ils savent suivre nos regards, etc. Ils nous reconnaissent individuellement. Les corneilles nous reconnaissent individuellement. Et nous, est-ce qu'on est capable, sauf si on en a apprivoisé une, de dire, tiens, voilà Irma, voilà Bernard.
Ouais. Je me souviens, quand vous avez écrit Habiter en oiseau, au début du livre, pour justifier cet essai extraordinaire, vous dites, un jour j'ai entendu un merle, et ce chant de merle, ce jour-là, m'a interpellé et j'ai décidé de m'intéresser aux oiseaux et aux études des ornithologues. Même chose avec un poulpe. Vous avez rencontré un poulpe particulier qui vous a, je ne sais pas, attrapé. Vinciane Després.
Je ne peux pas tout vous dire.
Oh non, gardez votre intimité, gardez vos secrets, car ils ont de longs bras tactiles.
Le poulpe est arrivé en fait tardivement. J'avais commencé avec les araignées, pour tout vous dire.
Donc, la première de longs bras tactiles aussi.
Le portrait tactile aussi, très vibratoire. Donc il y a une danse là, à creuser. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est l'artiste Thomas Saraceno, qui avait fait une superbe exposition au Palais de Tokyo, m'avait demandé un texte sur les araignées en disant, tiens, fais-moi un texte. Je lui en avais fait faire un, puis il me dit, mais donne-moi un deuxième. Je lui ai dit, Thomas, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Alors il restait le... Je lui ai dit, et si on essayait la fiction? Et donc j'ai écrit une fiction pour Thomas, et il y a une espèce d'hubris dans le mensonge qui fait que, une fois que vous avez commencé à inventer, je vous y trouvais un tel plaisir.
Plus
il y a une telle liberté, je n'ai pas pu m'arrêter. Je me suis dit, alors, il y a des amis qui voulaient créer un réseau de solidarité transversale ou horizontale pendant le confinement. Mm-hmm. M'ont dit, on a choisi le Wamba, on va se mettre sous l'égide du Wamba. Très bien, je vous fais.
Je prends
et je vous prends les wombats.
Et puis voilà. Je prends les poulpes aussi.
Et puis je me suis dit, mais les poulpes, ça m'a toujours... Alors le poulpe, c'était simplement parce que je me suis dit, ça c'est vraiment le type d'intelligence qu'on essaye de rapprocher de la nôtre et qui pourtant reste totalement différent de nous, avec des points de conjonction possibles. Et je me suis dit, non, ça c'est trop joli. Est-ce qu'on pourrait imaginer se mettre dans la tête d'un poulpe? Non, probablement pas. D'abord parce que c'est pas dans sa tête que ça se passe.
C'est ça, ça se passe
au bout
de... Il faut
se mettre dans ses bras. Voilà, c'est ça le problème.
On y revient. Vous êtes très coquine. Alors, on va évoquer avec vous, Vinciane Després, et avec Nadia Dam, mais précisément un habitat parmi d'autres des poulpes, les calanques.
Oui, c'est
Est-ce
très...
Ce qui se passe en France dans les calanques de Cassis.
C'est très intéressant ce qui se passe effectivement sur ce lieu-là. C'est un magnifique site naturel. C'est un remarquable réservoir de biodiversité qui est donc aujourd'hui victime de son succès depuis quelques semaines, quelques mois, depuis le confinement en tout cas, puisqu'il fait l'objet d'une surfréquentation. Il faut des heures de bouchons pour y accéder. On va voir des images. Ça a évidemment des conséquences sur les écosystèmes, puisque les végétaux sont piétinés, des plantes protégées se font littéralement rouler dessus par des 4x4, des déchets sont laissés par les visiteurs, et puis les navires de plaisance, qui sont de plus en plus nombreux, on le sait maintenant, ils abîment les posidonies. Ce sont ces plantes aquatiques qui sont très 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 utiles pour plusieurs espèces marines. Le phénomène est tel que les autorités disent arrêtez de venir, en fait c'est pas si joli que ça. Ça pose un vrai problème, un dilemme assez cruel. Comment est-ce qu'on fait pour s'émerveiller de la biodiversité sans l'abîmer, sans la piétiner avec nos gros sabots de promeneurs? Pour la protéger, il faut l'aimer, pour l'aimer, il faut la voir.
Alors, il faut la voir, mais on n'est pas obligé d'aller tous au même endroit. Ouais. Et c'est ça le problème, c'est que, d'une certaine manière, il y a des sites qui ont une attractivité toute particulière qu'on peut comprendre. Mais peut-être que c'est... Allez, peut-être que j'exagère ici. Mmh. Mais il me semble... Il y avait quand même quelque chose qui était de l'ordre de dire, avant que Rousseau ne parle des montagnes, on les trouvait laides. Mmh. Voilà. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on va aimer certaines choses? Et qu'est-ce qui fait que certains sites, qui sont pourtant magnifiques mais plus discrets, n'ont pas reçu cette espèce d'aura charismatique que les autres ont? Et donc peut-être qu'il y a tout un travail à faire là, de découverte et de redécouverte, mais pour disperser, évidemment, les endroits d'attractivité. Et c'est peut-être là où, en effet, il y a quelque chose qui reste à faire. Mmh.
Nous allons avoir un débat dans un instant, Vinciane Després, autour de la fin de vie et d'un projet de loi qui est examiné en ce moment même. Vous êtes belge. Or, en Belgique, l'euthanasie a été dépénalisée depuis 2002. Mmh. Je vous pose la question parce que vous avez également fait paraître un essai magnifique il y a plusieurs années qui s'appelle « au bonheur des morts ». Quelle est votre position sur le sujet, sur la fin de vie, le libre arbitre par rapport au choix de mourir et au choix de choisir sa vie, sa mort?
Alors, moi, comme beaucoup de personnes en Belgique, j'ai trouvé que c'était une bonne chose, notamment parce qu'elle s'est accompagnée de beaucoup de pensées, de beaucoup de... Et je vais vous étonner, ça s'est accompagné aussi, dans les faits, pratiquement, parce que je connais beaucoup de personnes qui ont connu des parents qui se sont fait euthanasier, etc. C'est assez étonnant. Il y a eu énormément d'humour dans beaucoup de ces situations-là. Alors, moi, je m'attendais. Je sais qu'il y a beaucoup... Il y a souvent de l'humour dans les morts non angoissés. Je veux dire, par là, la grosse madame qui tombe dans le trou qui est resté ouvert parce que le fossoyeur avait oublié de l'eau. Enfin, bon, bref. Ce sont des choses que Jean Allouche, le psychanalyste, évoque à propos, donc, dans un très, très beau livre érotétique du deuil au temps de la mort sèche. Donc, ce sont des choses qui arrivent. Il y a de l'humour parce que la situation... Il y a du burlesque dans les situations de mort. Et je m'attendais... Je sais que ça arrive dans les morts, ce qu'on appelle les morts non angoissantes, donc des gens qui finissent paisiblement leur vie plus ou moins à leur heure. Je ne m'attendais pas à ce que ça passe du côté de ce type de situation. Et le nombre de situations où on m'a raconté, qui tournaient, finalement, où les gens riaient, s'amusaient, faisaient la fête, ou même pouvaient se disputer. Je me souviens du père d'une amie qui, à un moment donné, il y a eu dispute au moment, parce qu'on dit maintenant la famille va se retirer, on va laisser que les plus proches. Et les deux beaux-fils, le premier et le deuxième, l'ancien et le nouveau, se mettent à dire je suis le père du petit, ah non, mais moi je suis le dernier.
Donc c'est un chemin de deuil pour vous déjà à ce moment-là, dans cet acte d'euthanasie, c'est ça que vous me dites.
Alors, ça veut dire simplement que les gens le font en explicitant beaucoup mieux les enjeux de ce qui est en train de se passer. D'accord. Et donc, par exemple, ces trucs d'humour, eh bien, par exemple, le monsieur a fini par dire est-ce que je peux mourir tranquille, mais en riant.
C'est superbe.
C'est ça, en fait. Je veux dire, ma propre mère, au moment de la veille de sa mort, quelqu'un lui demande, mais comment est-ce que vous voulez qu'on organise demain, etc. Et elle lui répond tranquillement, mais je ne sais pas, c'est la première fois que je fais ça. Enfin, je veux dire, vous voyez, il y a plein d'humour, mais je ne dis pas qu'il n'y a que de l'humour. Oui. Mais le fait que ce soit devenu autorisé, bien pensé, bien préparé, fait que les possibilités d'encore retrouver, de chercher de la vitalité là où elle pourrait être, sont encore là.
Merci Vinciane Després. Autobiographie d'un poulpe, La danse du cratérope écaillé qui vient d'être réédité. Voilà, une écosophe absolument passionnante et stimulante.
Merci beaucoup.